donc, ah, ouais, donc, le Sly, ah, ouais, donc, le gars qui se fait remercier par Dave Morissette.
Ouais! J'attends toujours ce moment-là avec impatience à savoir qu'est-ce que tu vas me sortir à chaque semaine. Écoute, salut Ben, j'espère que ça, en tout cas, ça a l'air à bien aller.
Ah, ouais, ça va très bien.
Bon, sixième épisode des Buts remplis, une autre émission quand même relativement très chargée. On va commencer avec une entrevue avec Frédéric Deck dans les prochaines minutes qui vient nous sortir un livre « Chips, Peanuts, Cracker Jacks ». C'est un peu comme des histoires à l'envers du décor avec les expos, donc on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter avec Frédéric. On a aussi évidemment Josué Pellé qui va être là avec sa chronique
« La parole de Jésus ».
Qu'est-ce qui était question? Qu'est-ce qui est question? Est-ce qu'on est au courant, Josué? Il partage-tu ses idées?
Oh oui, on va parler d'Édouard Julien, entre autres, là, un Québécois ouais. qui fait super bien avec les Mighty Muscles de Fort Myers, donc qui est à sa première saison dans les ligues mineures, puis Josué a été son entraîneur là, à Québec, puis il va nous parler un peu d'Albert Pujols aussi.
Oh, le grand Albert. On a aussi Charles Leblanc là, qu'on va parler. Il est dans les 3A, dans les filiales 3A des Rangers du Texas dans nos actualités MLB. On a eu deux matchs sans points de coup sûr la semaine dernière. Deux, Ben, c'est incroyable. Il y en a quatre depuis le début de la saison. Moi, je veux aussi vous parler de Tony La Russa, grand-papa Tony, comme je l'appelle. Donc, on va parler de lui. Puis, on a une nouvelle chronique. Que sont-ils devenus? On va revenir sur des anciens joueurs des expos, justement, puis on va voir leur parcours depuis leur retraite, puis on va se rappeler aussi des souvenirs de ces gars-là. On vous dit pas qui, on vous réserve ça pour plus tard dans, dans le podcast, exact.
Suite donc, logique avec l'entrevue où on exact. Parle des anciens expos
tout est dans
avec,
tout, ben.
Avec Fred.
C'est on ça, est des je professionnels, dis. On pense
là, on a parlé du gala artiste, là on va rejoindre un artiste.
Voilà, on amène Fred. Salut Frédéric Deck, ça va bien?
Salut les gars, ça va super bien vous autres?
Très très bien.
Félicitations. Vous voyez que moi je suis pas un professionnel, mon éclairage est tout croche, là. Je ne sais jamais comment organiser ça.
Pas grave, ça paraît pas quand on écrit des livres.
Non, c'est ça, c'est ça autant que l'écran est éclairé.
Félicitations d'abord pour la sortie du livre. On sait que c'est tout l'effort que ça prend, tout le travail qui est mis pour arriver au résultat final, puis j'ai lu le livre, c'est très réussi, Fred.
Ah ben, merci beaucoup, hein, parce que tu le sais, Ben, là, notre job est fait, rendu là, nous autres, on ne peut plus rien changer à ce qui va arriver avec ce livre-là. C'est, il reste aux gens à le découvrir, puis à l'apprécier ou non. À date, je vois, ça va plutôt bien, la réponse est bonne. Il est super beau, moi, j'ai vu la couverture, pour vrai, j'ai adoré ça. Alors, regarde, la réponse est bonne jusqu'à maintenant. Là, moi, je suis agréablement surpris puis je touche du bois pour que ça continue. C'est super le fun.
C'est juste le titre. Là, qui a jamais entendu ça dans un stade de baseball? Le Chips, Peanuts, Cracker Jack, là, je veux dire, c'est un grand classique. Là, ça attire l'attention, c'est clair.
Ben exact. C'est sûr que moi, c'est un titre un peu qui me suit. J'avais un blog il y a quelques années là, quand j'avais pas d'enfant puis que j'avais le temps d'avoir des blogs. J'avais un blog qui s'appelait Chips, Peanuts, Cracker Jack. J'ai déjà eu une chronique sur cyberpresse.ca qui portait ce nom-là. C'est un titre, c'est quelque... Moi, je trouve que c'est tout de suite, quand tu entends ça, tu es dans ton siège jaune au stade puis tu t'en commandes.
Hein. Ben oui.
C'est un peu ça que je voulais recréer tout de suite en partant aussi.
Si tu es dans le siège jaune, ça veut dire que tu es dans le siège où Willie Stargell a frappé.
Ben, tu peux prendre celle-là. Il y en a d'autres un peu plus proches, mais oui, tu peux être assis dans
ce Fred, comment on a l'idée de faire un livre comme ça, de recueillir des anecdotes de plein de gens qui ont... était autour des expos. Là. Autant des joueurs, d'anciens joueurs, je vois qu'il y a la veuve aussi de Gary Carter, il y a des journalistes, bref. Comment l'idée nous vient de réunir tout ça ensemble?
Bien, les gars, vous êtes dans le domaine, vous le savez, même nos chums, nos amis proches, ils veulent tout le temps savoir comment ça se passe. Hein? Oui, il est comment le vestiaire? Tu sais, on le voit à TV, mais le vestiaire du Canadien, c'est comment? Ce gars-là, il a l'air smart, il est-tu vraiment smart dans la vie? On a toujours des questions sur les coulisses. Moi, j'ai toujours été attiré par les coulisses. Mon père est un grand consommateur de documentaires puis de making of. Fait que depuis que je suis tout jeune, c'est en moi. Et puis, c'est un livre dont j'avais l'idée depuis très longtemps. Ça fait 14 ans que je suis avec ma conjointe, puis elle me dit c'est une des premières affaires dont tu m'as parlé, c'est ce projet de livre-là. Mais je savais pas comment le vendre, je savais pas comment fonctionnait le monde de l'édition du tout. Fait que je dis que je me suis fait les dents avec deux raconte-moi, ça m'a permis de me mettre le pied dans la porte puis d'apprendre comment ça marchait. Ça c'est la mécanique, mais l'idée, ben, c'était que, tu sais, des livres sur les expos, sur les saisons, sur les stats, sur les rendez-vous ratés de 81 puis 94. Il y en a eu beaucoup. Si tu veux un livre de stats, tu vas t'acheter « Il était une fois les Expos » de Jacques Doucet puis Marc Robitaille. Si tu veux entendre parler de l'époque glorieuse des Expos, va acheter le livre d'Alain Huzreau qui parle de 77 à 83. Danny Gallagher vient de sortir un livre l'année passée qui s'appelle « Blue Monday ». À un moment donné, je pouvais pas revisiter ces moments-là en espérant me démarquer de gens qui ont couvert ces époques-là, puis que moi, j'étais pas là. Puis deux, je me disais, les gens veulent-tu lire un autre livre de stats sur le baseball ou de tu sais, sur 81 puis 94? Fait que je voulais, c'est ce que je demandais aux gens, racontez-moi une histoire en lien avec les Expos, mais que vous avez jamais ou très peu raconté. Comme ça, on va aller chercher quelque chose de neuf. Et les gens sont allés là dans toutes les directions. T'as des histoires super personnelles, t'as des histoires plus baseball, mais je pense qu'il n'y a pas une stat dans le livre. Faire un livre de baseball sans mettre une stat, tu sais, comme moi, c'est assez top.
Ben oui,
honnêtement, tu sais, il y en a sûrement quelques-unes. Je dis qu'il n'y en a pas, c'est sûr que je dois avoir une couple de chiffres, là. Mais c'est des histoires de sport, même plus que de baseball, je dirais.
Mais il y a des bons intervenants dedans, puis des histoires le fun, tu sais. Puis un exemple qui illustre bien ce que tu dis, tu sais, c'est Steve Rogers, entre autres, tu sais, où que lui, au lieu de parler du Blue Monday, là, tu sais, parce que c'est toujours l'histoire que les gens parlent de lui, puis il parle pas mal moins de ses deux victoires contre Steve Carlton, là, mais il parle de ses débuts, où il a eu beaucoup d'adversité, il a été repêché tôt, lui pensait qu'il était déjà arrivé, le Major League, ouais. Là, il est surpêché tôt, ça va bien aller, tu sais, puis il y avait des gars qui avaient été repêchés un peu avant lui ou un peu après lui, qu'eux autres étaient déjà dans la Grande Ligue, fait que lui, il se voyait là, fait que tu sais, c'est intéressant d'avoir cette vision-là qu'on n'a jamais entendu parler.
Vois-tu, moi, qui se considère un grand fan des Expos et de baseball, j'avais jamais entendu Steve Rogers raconter ça. Peut-être qu'il l'a déjà fait, tu sais, mais quand même. Et puis c'est ça, tu l'as bien dit, lui, il a été repêché quatrième au total en 71. Puis lui, il s'est dit, quand la job est faite, moi j'arrive là, donnez-moi la balle, dites-moi quand est-ce que je lance, tout va être correct. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Et puis même une année, il me raconte que au camp d'entraînement, il passait bien, je pense, la troisième ou son quatrième camp, je me souviens plus exactement. Il dit, j'ai assez bien fait pour être le cinquième partant de l'équipe, mais l'équipe m'a dit, garde, avec le calendrier qu'on a au début de la saison, on n'a pas besoin d'un cinquième partant. On va t'envoyer dans le 2A, tu vas lancer, puis quand on va avoir besoin d'un cinquième partant, on va te rappeler. Il fait à peu près un mois, je pense que l'équipe était à Winnipeg, les Whips de Winnipeg dans ce temps-là, puis il dit, là, un moment donné, le gérant m'appelle dans son bureau puis il dit, hey, félicitations, t'es promu, tu t'en vas au niveau 3A. Il dit, hey, dis-moi dans ma tête, c'était pas une promotion pendant tout. Je m'en allais dans les majeurs. Il dit, je suis pas encore rendu. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, écoute, je le dis dans le livre, là, tu sais, je suis allé prendre une coupe de bière avec Steve Rogers à son hôtel parce qu'il y avait un événement à Montréal. Tu sais, pour un fan de baseball qui a découvert les Expos avec l'équipe de 80-81, là. Peux-tu te dire que je tripais pas mal, là? Faut que tu checkes si ton enregistreuse marche comme faut parce que je n'écoutais pas tout le temps avec 100% d'attention.
Ben oui, c'est ça qui est le fun, c'est le processus, tu sais, aussi d'écrire un livre comme ça. Tu te retrouves dans des situations où que, tu sais, on a tous été des petits gars qui tripaient sur le baseball puis le hockey. Puis Fred, une phrase qu'il aime dire, c'est que c'est pas un métier le fun à faire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, fait qu'aussi bien que ce soit moi, tu sais.
C'est ma phrase pour ma blonde, ça, quand elle chiale un peu parce que je suis en couverture ou que je pars un mois aux Jeux Olympiques ou que j'ai encore un autre gala de boxe un samedi soir, je dis, ah, regarde, tu sais que c'est pas un job le fun, pour quelqu'un qui la fasse, aussi bien que ce soit moi.
Fait que ça a été une coupe de bière avec Steve Rogers, un déjeuner avec Claude Raymond.
Deux après-midi, à me faire bercer par la voix de Jacques Doucet dans son bureau chez eux, comme quand j'étais tout petit puis que je m'endormais avec mon Walkman ses oreilles pour pas me faire pogner en train d'écouter les Expos à San Diego parce que ma mère voulait pas que je la regarde à la TV.
T'as-tu bercé littéralement ou...
Excuse-moi.
Dans son bureau, est-ce qu'il t'a bercé littéralement?
Non, juste sa voix qui m'a bercé. Je pense que je suis rendu, peut-être là 10 ans, là, mais là, je suis rendu trop lourd, peut-être, pour Jacques.
Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes dans le livre. Elles sont vraiment tous intéressantes, mais laquelle, en l'écrivant, t'a fait comme « Wow, là, je capote en ce moment à écrire cette partie-là? »
Ben, bon, Steve Rogers, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais entendu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Mark Griffin m'a raconté aussi, parce que Mark vient d'écrire sa biographie, tu sais, puis ça se termine, là, il va remplacer Gary Carter pour une présence au bâton dans la Ligue des Pamplemousses. Son livre se finit là, puis la façon ça finit, tu dis crème, là, il a vécu son rêve et tout, mais après ça, il s'est pas rendu jusqu'au majeur, tu sais, puis il me raconte comment son association avec les Expos s'est terminée, puis ça s'est vraiment pas bien terminé. Et puis ça, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est un peu cliché, là, Ben, je pense que je t'en avais déjà parlé, tu sais, on dit toujours que les gens sont généreux en entrevue, mais tu sais, en même temps, tu dis, pourquoi Marc, il me raconte ça à moi? Parce que, tu sais, il me dit, si j'écris la suite un jour, ça serait mon premier chapitre. Ben non, là, ça va être ton... tu vas commencer au chapitre 2, Marc, parce que c'est déjà écrit. Mais, il y a... puis l'autre histoire, ça m'a beaucoup touché, moi... l'histoire de Christian Tétreau qui raconte comment le baseball, ça lui a permis d'avoir une relation très privilégiée avec ses deux garçons adolescents. Tu sais, moi, j'en ai une préado qui s'en vient, là, puis je veux dire, on a des accrochages de temps en temps. Je me dis, OK, ça va falloir qu'on se trouve un terrain, justement, où on se rejoint, là, puis bon, ça peut être, eux autres, c'était le baseball. Moi, ma fille, elle a joué, la plus vieille a moins aimé ça. Cette année, elle n'a pas le goût de jouer. La plus jeune continue. Mais tu sais, il faut qu'on se trouve de quoi. Fait que là, on est en train là, d'explorer où est-ce qu'on va se rejoindre, tu sais. Mais moi, j'ai trouvé cette histoire-là super touchante. Et Richard Milleau qui est pris en Floride avec l'équipe pendant les attentats du 11 septembre. Tu sais, c'est surréaliste. Là, il me raconte, dans l'hôtel où il est, au Marriott à Miami, il y a une convention d'experts en effets spéciaux du cinéma pendant que les expos sont là. Le matin, il se lève, descend pour aller chercher le journal. Il y a une TV dans le lobby, puis il y a un 747 qui rentre dans le World Trade Center. Ouais. Il dit, ah ben ouais, c'était écœurant, mais est-ce qu'ils font ça, les effets spéciaux aujourd'hui? 3 minutes après, il réalise que tout le monde braille dans la place, puis que c'était pas des effets spéciaux qu'il vient de voir, mais l'avion rentré dans le World Trade Center, tu sais. Fait que là, l'histoire continue, parce qu'ils sont vraiment, là, en l'espace de quelques heures, il y a plus de match le soir, il y a plus de match pour 2-3 jours, il y a plus de match pour la semaine, il y a plus de vols internationaux, comment, qu'est-ce que je fais, point ici, là, ils sont pas chez eux, personne, là. C'est, tu sais, puis là, c'est sûr, je pourrais nommer les 24 histoires, là, parce que s'ils sont dans le livre, c'est parce que c'est pas tout intéressant, tu sais, mais c'est ça, on va dans plusieurs directions, là, je me répète, puis c'est ça que je trouve qui fait, une belle courte pointe d'histoire.
Fred travaille à Presse canadienne, mais tu sais, ça arrivait des fois, on se côtoyait, entre autres, lors des entraînements des Alouettes, puis on se parlait, puis là, lui, il savait que j'avais un livre sur Derek Aucoin qui s'en venait, lui m'avait parlé de son truc des expos, puis j'ai même fait une passe à palette pour son livre. Oui. J'ai dit, faut que tu parles à Claude Lavoie, qui était responsable des vestiaires adverses.
Ouais.
C'est lui qui a découvert le corps de Don Drysdale à l'hôpital et tout. Fait que ça, j'avais un petit sourire en coin quand je l'ai vu dans le livre. Puis c'est tellement une bonne histoire. Mais les 24 histoires sont très le fun. Puis moi, ce que j'aime avec ce gâteau-là, c'est que tu peux le prendre une bouchée à la fois. Tu sais, il est comme divisé en chapitres. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est peut-être moins habitué de lire, ben, peut acheter ce livre-là puis dire, ah, OK, à soir, je vais lire un des chapitres, puis tu sais, ça va prendre
c'est même pas obligé de le lire dans l'ordre à part ça. Puis d'ailleurs, je vais le mettre dans les remerciements. C'est pour la passe à la palette, là, mais je le dis à tous les gens, je m'en parle que c'est Ben qui m'a donné cette histoire-là. Puis fouille-moi pourquoi ça s'est pas ramassé dans les remerciements. Je m'excuse.
Ah, il n'y a pas de trouble.
mais effectivement, tu sais, c'est quelqu'un m'a passé la remarque, il dit, moi, là, je le prends, puis je lis une histoire par soir, puis c'est ça, je disais, t'es même pas obligé de le lire dans l'ordre, là. C'est sûr que nous autres, on a trouvé un pacing qu'on trouvait intéressant pour développer l'histoire, tu sais. Et puis, c'est ceux qui ne l'ont pas découvert, c'est en ordre chronologique, là. On part à peu près de 69 pour s'en aller jusqu'à 2004. Mais, tu sais, si tu as le goût d'aller lire Steve Rogers avant Charles Bronfman, ben, tu fais ce que tu veux, puis mm-hmm. Tape des matières exprès pour ça, servez-vous-en. Sinon, personne ne va lire cette page-là.
En tout cas, le livre Chips, Peanut, Cracker Jack, allez acheter ça.
Allez-y.
Nous, on va faire un petit concours. Là. Tous ceux qui vont partager le podcast aujourd'hui, d'ailleurs, vont avoir la chance d'obtenir un livre. Parlant de livres et de films...
Ça veut dire ma mère que si elle partage le podcast, elle ne peut pas gagner notre jeune copie. Hein.
OK, parfait. On le mettra dans les règlements. Parlant de livres et de films, là, écoute...
Ça sent le pitch and catch, là. Hein?
Ouais. Là, j'ai préparé différentes questions, là. Mais je te commande. Je te commande la glissante, OK?
OK, je vais avec. Ben écoute, je vais avec la glissante.
excellent. Et on peut faire rentrer peut-être, là, est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle d'attente, peut-être Ozoué qui peut participer à ce pitch and catch-là?
Ozoué Pelé qui est là avec nous.
Hey, Ozoué, je sais que tu aimes bien la portion pitch and catch de notre podcast. Donc, on te fait rentrer pour la question du jour qui est une balle glissante. Donc, c'est quel est votre livre?
Ben attends, Ben, j'ai un autre invité aussi. Là. On peut le faire rentrer aussi.
À 5, ça va-tu exploser? C'est la première fois qu'on tombe à 5. Là.
Oh, j'ai jamais vu ta main. J'ai jamais vu ta main
sur notre podcast. Comment ça va, Perry?
Ça va très bien, bien.
What's up? Hey Perry, on va retarder un peu le pitch and catch. Perry, qui fait partie des gens qui sont dans le livre Chips, Peanut, Cracker Jack. Ouais. Alors, on aurait pu demander à Fred de raconter ce bout d'histoire-là, mais Perry, raconte-nous donc la fois où que ta valise de Gary Carter s'est retrouvée au stade puis comment que ça s'est passé.
Ah, c'était tellement fun cette histoire-là. C'était le premier match qu'on a joué au Stade Olympique avec les Jays contre les Mets.
2014.
Donc, Evenko nous a demandé de faire un display de ma collection là-bas. Puis, j'ai emmené cette valise-là que j'avais depuis plusieurs des années. J'ai eu ça d'un des agents de Gary Carter dans le temps. Et puis, je ne l'ai jamais ouvert. Là. Je n'avais pas les chiffres, la combination. Là. Donc, je l'avais là. Puis cette soirée-là, c'était le vendredi soir. Il y en aurait Gary Carter, puis sa femme Sandy était là avec les enfants, avec Christy Carter, puis tout ça. Puis
toi, tu étais dans le stade olympique. Là,
oui, j'étais dans le concours. Ouais. J'étais dans le stade avec mes garçons. Et puis, Sandy est passé juste devant, puis sa fille Christy, il a vu la valise. Puis il a dit, regarde, maman, c'est la valise de papa. J'ai dit, oh, boy. Déjà, mon cœur commençait à battre comme une malade. Là. J'étais tout excité comme une petite enfant. Puis elle m'a demandé, regarde, est-ce que je peux te demander, excuse-moi, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la valise quand tu l'as acheté? J'ai dit, regarde, je ne connaissais pas les chiffres puis je ne voulais pas les briser. So, je le shakais quand même puis j'attendais un bruit, mais je ne savais pas c'était quoi. Puis elle m'a dit, si tu me permets, là, je vais l'ouvrir parce que papa, il avait une très mauvaise mémoire. Puis j'ai dit, vas-y donc. Puis devant moi, 8, 8, 8, 8. Oh! J'étais comme Raiders of the Lost Ark. Alléluia! Malheureusement, il n'y avait rien dedans. C'était juste la ceinture de la valise qui faisait la bruit. Mais j'étais tellement content. Puis j'étais content que mes garçons étaient avec moi. C'était un moment assez excitant, là.
Fred, parle-nous donc de ta rencontre peut-être avec Perry, que moi je l'appelle le Greek Freak. Là. On a eu des bons moments ensemble. On a fait une tournée avec les anciens expos où on a eu beaucoup de plaisir, entre autres. Puis Perry, c'est tellement un homme généreux avec Expos Fest. Puis il va ramasser tout près $1 million là, pour la cause des enfants malades et des tumeurs cérébrales, entre autres. Parle-nous donc, Fred, de. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec le Greek Freak?
Je me rappelle pas, Perry aussi. On s'est sûrement, soit au Stade Olympique, en marge d'un des matchs des Blue Jays, où on s'est rencontrés la première fois, ou peut-être, je ne sais pas si tu participais aux événements que Derek faisait, là, il y avait eu un gros pitch and catch à un moment donné au Parc Jarry. Mais en tout cas, c'est flou ma première rencontre avec Perry, mais depuis ce temps-là, on est en communication pas mal constante. On ne s'appelle pas toutes les semaines, mais on se texte de temps en temps, puis on jase de temps en temps. Et puis, moi, à un moment donné, j'ai participé à Expo Fest. J'ai pas participé, mais je veux dire, je me suis rendu à Expo Fest pour aller interviewer les anciens qui étaient là, justement, en marge des matchs des Blue Jays. Puis, c'est là que moi, j'avais pris connaissance de la fondation Cake the IPG. Et puis, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. À ce moment-là, on s'approchait, si je me trompe pas, du $500 000 d'argent ramassé. Et puis, j'avais parlé de ça avec mes patrons. J'avais dit, moi, je trouve que ça serait intéressant de faire un texte sur cette fondation-là qui est en marge du baseball. Puis là, j'avais appris à connaître plus Perry parce que, tu sais, t'as Perry un peu le personnage public. Puis je veux pas dire mascotte, mais tu sais, le gars collectionneur des expos puis toujours content. Mais Il y a le Perry aussi, là, tu sais, touchant, puis qui a été frappé par cette maladie-là dans sa famille, puis qui a décidé de s'impliquer puis de redonner. Et puis, je trouvais que ce Perry-là, on n'en parlait pas assez, puis j'avais le goût de le faire connaître. Puis, depuis ce temps-là, ben de temps en temps, je participe. Là, volontairement, j'envoie de l'argent pour pas gagner les maudits tirages de Perry. À un moment donné, ça va être mon tour. Non, mais, je veux dire, puis on se parle, puis quand l'idée du livre a germé, ben, je me suis dit, crème, on peut pas avoir un livre comme ça, puis pas parler aux plus grands collectionneurs d'items des expos de la planète, probablement de la Voie lactée. Alors, je me suis dit, c'est un naturel d'avoir Perry dans le livre, mais tu sais, au-delà du personnage public qu'on connaît, moi, au fil de mes rencontres, j'ai appris à connaître quelqu'un de super intéressant, super touchant, puis moi, en tout cas, écoute, jusqu'à preuve du contraire, une très bonne personne, puis je m'entends super bien avec Perry. C'est toujours un plaisir de le retrouver.
Tu parlais du Expos Fest, puis avant de retourner au Pitch and Catch, puis on va essayer de retrouver Ozoé, là, qui a quitté inopinément.
Il est là.
juste avant de retourner au Pitch and Catch, j'ai juste une petite anecdote par rapport au Expos Fest. C'est qu'une année, Perry m'avait invité comme une des personnalités. Où ça fonctionne, c'est que les gens payent pour avoir une table, puis il y a des personnalités à chacune des tables, tu sais, les anciens joueurs des expos et tout. Puis moi, ils m'avaient mis comme personnalité à une des tables, tu sais. Puis là, on était présentés en avant, puis OK, à la table numéro 10, journaliste à l'agence QMI, Benoît Rioux, tu sais, j'étais comme, genre, entre Derek Aucoin puis genre Larry Walker, là, tu sais, que j'arrive à la table, première chose que je dis, puis les boys, c'est pas trop déçu, ils tombent sur Benoît Rioux, là, c'est comme, là, après ça, j'étais allé voir Derek, tu sais, puis là, j'étais là avec Derek, pour de vrai, là, pendant le souper, amène des anciens expos, là, tu sais, à ma table, là, parce que les gars, ils vont demander un remboursement, là, et, comme ils n'ont pas payé pour ça, là, tu sais, fait que, finalement, je pense que les gens à ma table sont ceux qui ont vu le plus
d'anciens
expos, puis qui ont plus parlé avec les anciens expos, parce que j'étais tellement soucieux à ce qu'ils passent une belle soirée, malgré que ce soit moi la personnalité à la table.
Un bon host.
Yes. Donc, on va y aller avec le Pitch and Catch, la glissante, votre film ou votre livre de baseball préféré. On va commencer peut-être avec Ozoé, là, qui a été très patient là, pendant qu'on parlait avec Fred et Perry.
Ben, écoute, moi, mon film préféré, là, c'est The Sandlot.
Petit chat.
J'ai écouté ça là, quand j'étais très jeune, quand j'étais au Venezuela. C'est la première fois que je l'écoute, c'est en espagnol, imagine-tu. Ça fait quand même un petit bout, tu sais, c'est un film tellement, je dirais même réel, tu sais, dans le sens que je me rappelle au Venezuela, moi, pour trouver une balle de baseball, c'est un denrée rare, là, tu trouves pas ça, fait qu'on faisait des balles avec des bas qu'on avait avec des trous, puis on faisait une balle, puis on espérait pas la perdre, pas qu'elle tombe dans l'eau, parce qu'elle devenait trop lourde, fait que, tu sais, c'est un film, là, que j'écoute encore, puis, tu sais, il y a des films, là, qu'on n'arrête pas d'écouter, puis on se tanne pas. Ben, pour moi, ça n'est un.
T'as pas jamais été joué avec une balle signée par Babe Ruth, non?
Puis si je l'ai été, je m'en rappelle pas.
Perry, toi?
Ah, j'ai tout. C'est sûr, Field of Dreams puis The Natural. Ça, c'est mes deux, deux préférés. Mais je pense que The Natural, il était mon premier, mais. Après Field of Dreams, je l'ai vu comme une vingtaine de fois, donc parce que ça passe plus souvent sur la télé pour une raison à l'autre. Mais ces deux films-là, parce que je trouvais ça, tu sais, c'est l'histoire de chaque enfant, tu sais, c'est une histoire de jeunesse, puis j'ai toujours trouvé ces deux-là mes préférés.
Field of Dreams, en fait, c'est probablement le plus grand classique de baseball, là, avec l'histoire des Black Sox, quand t'entends la voix d'Outre-Tombe, là, qui, tu sais, c'est comme, c'est incroyable comment ça parle. Toi, Fred?
Ah, ben écoute, The Natural, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est mon go-to. Là, quand je m'emmerde, à un moment donné, je le mets en arrière-plan. J'ai beaucoup aimé Eight Man Out aussi, qui est issu du livre, là, de l'enquête des deux journalistes qui ont parti ça. Puis Eight Man Out, c'est l'histoire des Black Sox. Là, puis il y a deux journalistes qui trouvent que ça commence à être là, cette histoire-là. Puis ils prennent la photo d'équipe et ils décident de trouver qui triche, qui triche pas. Moi, j'ai adoré ce film-là, puis encore aujourd'hui, si tu sais, MLB Network, l'hiver, là, ils passent des films parce qu'ils n'ont rien d'autre à passer. Mais quand je vois que c'est Eight Man Out, je me programme ça ou je l'enregistre.
Excellent. Moi, j'ai une collection, Sylvain, de 35 films.
Oui, je sais. Si
tu savais ça. 35 ben oui, films de baseball chez nous, puis la lecture aussi. Puis à tous vos choix, là, j'ai de la misère à en prendre un. À tous vos choix, je rajouterais peut-être Major League, là, qui demeure un classique. Là, puis ouais, ouais. Moneyball, là, évidemment, avec l'histoire des A's, ça vient me rejoindre particulièrement. Mais aujourd'hui, je vais en profiter pour saluer le travail d'un Québécois, Marc Robitaille, qui, autant au niveau des livres qu'au niveau du film, parce qu'en fait, il y a eu un film qui était un peu un feel-good movie, là, Un été sans point ni coup sûr, qu'il y avait ouais. avec le jeune Pierre-Luc Funk, que j'avais bien ouais. aimé. Puis à la base, ça, c'était un roman, un récit qu'il avait écrit. Puis Marc a aussi travaillé là, sur les... il était une fois les expos, là, on en a parlé tout à l'heure. Fait que Marc, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Puis en parlant de films, j'ai parlé du film Moneyball, mais le livre Moneyball, c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Puis si on veut y aller avec plus romans, peut-être que Fred, entre autres, c'est quelque chose que tu pourrais lire un moment donné. C'est un roman que j'ai lu, ça fait déjà quelques années. Ça s'appelle « L'art du jeu » de Chad Auerbach. Puis c'est vraiment, c'est vraiment un roman. Là. C'est pas une histoire basée sur une histoire vraie, là, mais c'est vraiment intéressant. Là. C'est un jeune qui a étudié à Harvard puis que finalement, il joue au baseball. Puis c'est super intéressant.
Moi, le mien, là, ben, je vais vous relancer, les gars. Attends, excuse-moi, Sylvain.
Mais non, ça va, vas-y.
J'ai live dans ta bibliothèque. Pour nous autres, des journalistes, là, mais même des gens qui ne sont pas journalistes, qui veulent comprendre c'est quoi la job de beat, de baseball, de grind de Barry Zwarluga qui raconte une saison à suivre les Nationals. C'est ça montre à quel point, tu sais, le monde dit des fois, trouve que notre job, là, c'est glamour, puis on, tu sais, certains d'entre nous voyagent, puis tout ça. Suivre 162 games, puis un camp d'entraînement, puis des playoffs de baseball si ton équipe te rend, là. Écoute, t'es pas dans un club med pendant 8 mois de l'année. Puis ça explique vraiment, là, tout ce qui se passe. Josué, tu l'as vécu de l'intérieur, là, toi, là. Tu sais, vraiment, puis le grind, là, ça porte bien son nom parce que ça te brûle physiquement, mentalement. Le livre est pas gros, là. Écoute, c'est 200, c'est même pas 200 pages. Tu finis de lire ça, tu dis, ah, t'as-tu vraiment le goût de faire ça dans la vie, toi, Fred, si ça revient? Puis, mais c'est une bonne préparation pour, même, je dirais, là, tu sais, n'importe quel aspirant journaliste qui veut couvrir une équipe professionnelle au quotidien, là, ça devrait être une lecture obligatoire à l'université parce que, regarde bien, là, c'est pas un jardin de roses, là. C'est de l'ouvrage, là.
Vu qu'ils suivent les Nationals, j'ai l'impression que Perry le lira pas.
Qui ouais, ben non. Juste en attendant le nom Nationals, je commence à brasser.
Il n'écoutait plus déjà Perry.
Sylvain, toi, c'est quoi tes films et livres préférés?
Ben, en fait, tous les titres de films et de livres que vous avez mentionnés sont bons. Il y en a juste un, moi, que j'aime beaucoup, c'est The Rookie avec Dennis Quaid. Je ne sais pas si ça vous ouvre. Peut-être parce que j'aimerais ça, à 40 ans, avoir quelque chose qui arrive dans ma vie qui fait que je lance tout d'un coup à 98 000 à l'heure puis que je pourrais peut-être avoir une carrière professionnelle. Ça permet de faire rêver ce film-là. Tu sais, Ben, on joue là au niveau senior encore puis on est chanceux de jouer à 40 ans encore au baseball. Mais tu sais, on dirait qu'on aimerait ça, avoir vivre cette histoire-là puis de tout d'un coup lancer dans une pancarte stop puis que tout d'un coup, on se rend compte que notre bras a comme pris a pas pris de l'âge, a pris de la jeunesse. Puis qu'on est capable de lancer aussi fort, puis d'avoir une deuxième chance de se reprendre, puis d'avoir une carrière professionnelle. Mais on sait que ça n'arrivera pas, mais je pense que ce film-là me fait rêver, puis c'est vraiment bien pour ça.
Je regarde ça vite, là, puis en nos cinq, s'il y en a un que ça peut arriver, c'est peut-être Osoué.
Ouais, c'est lui qui est le plus proche, en tout cas, c'est sûr qu'il est le plus proche.
Ou Perry comme pinch runner. Hey, juste pour terminer ce bloc-là, là, puis je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais pour de vrai, là, je dirais que le secret le mieux gardé au niveau livre, puis au niveau film, puis au niveau tout produit de baseball, un des secrets bien gardés au Québec actuellement, c'est la version audio du livre que j'ai écrit sur Derek Aucoin. Parce que, tu sais, Derek, là, il est parti, puis ça fait on s'ennuie de sa voix, tu sais, on s'ennuie de lui. Puis la version audio, là, je dis, tu sais, c'est pas tout le monde, premièrement, qui est au courant qu'il y a une version audio du livre, là. Puis même si c'est moi qui l'ai écrit, de me ramener là-dedans en l'écoutant, tu sais, Derek, il était malade, là, tu sais, quand il a lu son livre, là, tu sais. Mais de réentendre sa voix, là, allez, faites-vous plaisir, puis allez acheter le livre audio de Derek au coin. Même si c'est pas si bien écrit que ça, là, il le livre tellement bien que il rend ça bon, là, tu sais.
Écoute, Frédéric Daigle, merci beaucoup
d'être... Hey, merci à vous, les gars, c'est super le fun.
Puis bonne chance dans la vente de ton livre.
Yes!
Je vois que ça va déjà très bien, donc je suis pas inquiet.
Ben écoute, on espère que ça continue, mais regarde, comme je disais à Ben avant qu'on rentre en onde, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Là. Moi, il est écrit, il est imprimé, il est ses tablettes. C'est les gens qui décident de la vie ou de la mort de ce livre-là maintenant.
Et nous autres, yes. On va faire de quoi? On va faire un concours, comme on l'a déjà dit. Donc, va te rester à le partager sur tes réseaux sociaux, mon frère.
Excellent, j'attends les liens qui s'imposent, puis je vais partager ça.
Excellent, merci. Merci,
merci Perry aussi.
Bienvenue, merci guys, ça fait plaisir.
Hey, merci encore.
Josué, nous, on te garde avec nous.
Je suis là.
Ben oui, c'est l'heure de la chronique.
La parole de Jésus. Là, d'ailleurs, on va faire une ouverture.
Pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus.
Bon, il va falloir faire de quoi avec ça, Ben? Il y a de quoi, là, enregistrer quelque
ça,
chose.
Là, c'est
on va mettre un petit peu de chum.
Alors, Josué, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique?
Ben, écoute, premièrement, on va parler, c'est certain, là, d'un futur Hall of Famer, donc un gars qui va se ramasser absolument au temps de la renommée, Albert Pujols.
Je pensais que tu parlais d'Edouard Julien.
Ah, ben c'est sûr. Ben, écoute, Edouard, il vient comme... S'il continue à frapper comme ça, c'est certain qu'il va se rendre au Hall of Fame. Là. Mais on va parler aussi d'Edouard Julien. Écoute, c'est mon protégé, Edouard. Hein? Alors, Edouard, c'est un petit gars d'ici de Québec. Là. Ça fait depuis qu'à 14 ans que je travaille avec lui. Aujourd'hui, comme tu peux voir, j'ai ma casquette du sport études ici à Québec. On recommence le baseball aujourd'hui ici à Québec. Alors, on est très contents. Fait beau en plus, on a le stade. Alors, c'est ça, Édouard, même s'il a signé là, l'année dernière, Édouard avait une opération Tommy John. Donc, lui, il a pris un an avant de pouvoir commencer là, puis jouer son premier match professionnel. Alors, c'est cette année. Puis, écoute, il vient de vivre sa première semaine là, direct dedans. Cette année, dans la ligue qu'il va jouer, comment ça fonctionne à cause du COVID, c'est qu'il joue 6 matchs de suite contre la même équipe.
OK. Alors,
peut comprendre que les ajustements sont mieux d'être faits vite.
Ben oui.
Bon, l'autre équipe va savoir exactement là, qu'est-ce que tu vas te faire lancer. Alors, on a quand même communiqué beaucoup là, cette semaine. Là, puis cette année, en plus, c'est le fun. On peut voir les matchs en live. Tu peux avoir un abonnement là, sur MILB.
Oui, c'est ça.
Alors, j'ai pris ça là, justement là, avec mon ami Joe ici, Marlo. Puis on écoute toutes les games, on check toutes ses at-bats. Puis écoute, Édouard, là, ça va être un nom à retenir. C'est un gars qui frappe la balle, là, qui a un élan, je dirais quasiment des ligues majeures. Il joue un petit peu partout dans l'infield. Là. Ça va être ça son plus gros challenge. Là. Ça va être en défensive. Parce que bon, on le sait là, que dans les majeures, là, les joueurs d'avant-champ, c'est des. Moi, j'appelle ça des aspirateurs. Là. Ils attrapent tout ce qui s'en va à droite. Mais c'est un gars qui travaille fort, il court vite. Puis il mange du baseball. Donc, j'ai hâte de le voir continuer à évoluer. Puis ça va être quelqu'un là que comme je dis, là, ça va être quelqu'un à surveiller.
J'ai aussi en tout cas, sur papier, là, attention, Ben, je veux juste donner les stats à Edouard pour l'instant. Le 617, 353 de moyenne, 2 doubles, 1 triple, 3 points produits, 9 buts sur balle déjà, 1 but volé. Puis un OPS de 1165. Fait que c'est assez bien parti.
Sa stat la plus incroyable, moi, je trouve, c'est avec ses 9 buts sur balle, c'est son OP, son OBP, là, tu sais.
577.
C'est incroyable, tu sais. Puis j'ai eu la chance de parler avec Édouard au lendemain de son premier match. Je l'ai texté, peut-être 5 minutes, je ne voulais pas le déranger non plus. Puis, tu sais, Édouard, tu sais, on se connaît, mais tu sais, pas tant que ça, tu sais. Fait que je voulais vraiment pas le déranger. Puis, tu sais, il a pris le temps... de me parler juste pour me donner ses commentaires un peu d'après son premier match ou qu'il a vraiment passé proche de faire une bombe. Là, ouais. Puis on l'a vu là, quand elle a été direct dans la clôture, puis c'était à Bradenton, là, c'est 400 pieds là, quand même là, au champ centre. Puis on l'a vu là, après son swing, là, il ne l'a pas regardé, là, mais j'ai senti qu'il savait qu'il l'avait bien pincé. Là, j'ai dit, tu pensais-tu qu'il était dehors? Là? Il était comme... Ben, j'étais pas sûr, mais tu sais, en bout de ligne, il était hyper content du résultat, évidemment, là, tu sais. Mais non, ça a été le fun, puisque j'ai aimé de lui, puis j'ai parlé aussi à Jean-Philippe Roy du programme des Canonniers, c'est qu'il me disait, tu sais, qu'il était très conscient parce qu'il a passé l'hiver, tu sais, comme entraîneur avec les jeunes aux Canonniers, puis tu sais, il sait un peu que, tu sais, il peut inspirer les jeunes, puis tu sais, il peut démontrer que... c'est pas impossible, tu sais, de gravir les échelons puis d'aller dans les ligues mineures. Puis, il est très « groundé », puis en même temps, ben tu sais, c'est ça. Là, il sait qu'il commence, il sait que c'est un long parcours, il sait que c'est un long chemin, mais tu sais, il se prépare bien, il fait bien les choses. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, particulièrement de la part à Édouard, d'avoir redonné aux jeunes. Il trouvait ça important de redonner aux jeunes à travers le programme des Canonniers. Puis, qui est conscient aussi... qui peut être un exemple, tu sais, fait que ça, j'ai beaucoup apprécié ça de sa personne.
Ah, puis je pense qu'il est bien entouré aussi, tu sais, aujourd'hui, tu fais partie de son entourage, tout ça, puis on le sait que le parcours est hyper long pour se rendre au baseball majeur, là. Je veux dire, il y a des exceptionnels qui brûlent des étapes, mais la majorité des joueurs font leur étape une à la fois. Il faut pas que tu te décourages, tu sais, puis faut que tu continues à bâtir ta confiance puis à performer jour après jour. Et c'est difficile. Et je pense que l'entourage va y être pour beaucoup autour d'Edouard pour l'amener à vivre son rêve éventuellement.
Dans l'entourage d'Edouard, excuse-moi, Ozoué, dans l'entourage d'Edouard, puis j'en parlais à Jean-Philippe en souriant parce que, tu sais, moi, j'aime tout le monde, tu sais, dans la vie. J'aime... par rapport à où je m'en vais, là, j'aime les gens de B45, puis j'aime Marc Bourgeois, mon chum de Mark Lumber, qui produit les bâtons à Édouard. Fait que quand que son swing, que ça a été direct dans la clôture, là, j'ai envoyé un petit texto à Marc, puis j'étais comme hey, « tes bâtons ont du pop », tu sais, puis les bâtons B45 ont du pop aussi, tu sais, moi, je suis pas comme... T'sais, j'encourage Québécois, là, tu sais, Marc, c'est un bon ami pour moi. Fait que, tu sais... ça me donne une raison supplémentaire de suivre les exploits d'Edouard, mais tu sais, j'encourage les deux entreprises, mais tu sais, je trouve ça le fun aussi, tu sais, de façon personnelle pour mon chum Marc qu'Edouard fasse bien avec ses battes.
Tu as dit un bon point, Ben, parce que je veux vraiment que les jeunes, là, si jamais il y a des jeunes qui écoutent notre show, là, c'est la stat vraiment là, qui vient me frapper, c'est ses buts sur balle. Parce que lorsque tu es un jeune frappeur, là, tu te dis toujours si je veux me rendre loin, je dois frapper. Donc, je dois m'élancer, je dois me rendre sur les buts avec mon bâton. Et c'est faux parce qu'on le sait maintenant dans le baseball, ce qu'ils veulent, c'est que tu donnes une chance à ton équipe d'avoir du monde sur les buts. Alors, si le lanceur ne te donne pas ce que tu veux, prends ton but et ça va bien aller par la suite. Là. Et à cet âge-là, surtout commencer professionnel demain puis avoir une discipline comme ça, ben ça ne s'apprend pas. Là. C'est vraiment difficile de pouvoir faire ça. Tu sais, Vladimir Guerrero, Teoscar Hernandez, c'est deux gars qui viennent de comprendre ça. Ils prennent des balles, alors ils ne s'élancent pas sur les lancers du lanceur. Ils obligent l'autre équipe à « regarde ». Tu ne veux rien me donner, je vais aller au premier but. Cependant, quand tu vas venir vers moi, là, je vais être prêt. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très important et de très difficile à faire, surtout dans un haut niveau comme ça.
Puis ce qui est intéressant, c'est que tu ramasses de l'information aussi. Tu sais, quand tu prends des pitchs comme ça, supposons que c'est contre le partant, c'est ta deuxième présence, si tu as vu 7-8 pitchs, c'est là que tu augmentes tes chances de frapper la balle en lieu sûr aussi.
Absolument. C'est un signe là, vraiment de maturité. Et comme tu l'as dit tantôt, là, je suis le gars le plus content sur la planète parce que, tu l'as dit tantôt, Sylvain, là, la préparation est tellement difficile. Tu sais, on a vécu des bas pendant l'hiver. Là, il y a des fois que ça marchait pas du tout comme il voulait. Là. Puis le spring training arrivait, puis on était un petit peu stressés parce que bon, on travaillait sur quelque chose sur son swing et ça fonctionnait pas nécessairement. Donc, C'est vraiment, là, j'ai adoré tantôt, là, lorsqu'il a parlé là, du livre de Grind, parce que c'est ça plus que du Grind. Là. C'est pas facile. C'est pas pour décourager les jeunes, mais c'est juste que plus tu montes, plus ça devient difficile. Donc, ta détermination, ta discipline surtout, là, doit être à point.
On a un autre Québécois aussi, Ben, hein, qui performe bien en ce moment, le Charles Leblanc,
ouais,
avec, dans le 3 des... Ouais, vas-y.
Je voulais juste souligner le fait que Charles Leblanc, à sa première présence au bâton,
exact,
en carrière dans le 3A, bang! Circuit, Charles Leblanc. Fait que ça, c'est incroyable. Fait que je voulais juste souligner ça. Je trouve que c'est bien de parler de nos Québécois. Pour terminer ta chronique, Josué, tu voulais nous parler un petit peu plus d'Albert Pouls, puis après, on va te laisser aller, sinon tu vas être en retard à l'école. Là.
Non, mais écoute, j'étais à 360, j'étais en train de travailler, puis je regarde mon téléphone, Albert Pujols, design, j'étais comme, pourquoi? Ouais. Moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu un accrochement? Écoute, j'ai essayé de trouver là, des raisons dans ma tête. Bon. Oh, il va se faire échanger ou l'équipe ne voulait pas l'échanger, donc il a demandé de se faire libérer pour signer avec une autre équipe. Et bien, jusqu'à ce jour, à ce que je sache, là, à preuve du contraire, il n'a pas signé ailleurs.
Non.
Et je trouve ça là, vraiment déplorable. Et je ne veux pas chercher de coupable ici, Ben. Là. Puis je veux qu'on s'en parle un petit peu, mais si on regarde des joueurs comme Mariano Rivera, comme Derek Jeter, comme David Ortiz, les plus. Les plus jeunes retraités là, qui s'en vont au temple de la renommée, c'est des gars qui ont annoncé leur retraite avant la saison.
Mm-hmm.
Partout où est-ce qu'ils allaient, les autres équipes leur donnaient un petit cadeau. Tu sais, tu te rappelles, David Ortiz s'est fait donner un téléphone brisé, là, des opales. Tu sais,
je ne me rappelle pas de ça.
Oui, David Ortiz avait brisé là, un téléphone dans l'abri des joueurs, puis les Orioles l'ont gardé. Okay. Il est retourné à sa dernière game à Baltimore, c'est le téléphone qu'ils lui ont donné. Donc, chaque équipe leur donne un petit quelque chose parce que Krim, c'est des joueurs qu'on écoute, c'est des légendes. Et Pujols ne l'a pas fait. Donc, je trouve que si Pujols avait peut-être annoncé sa retraite, sa dernière année de contrat, peut-être que les Angels auraient été comme. Il n'y aurait pas le choix de le garder.
Il aurait le garder jusqu'à la fin de la saison.
Exactement. Alors, d'un autre côté, pour protéger Pujols, il est à 33 circuits d'avoir 700. Donc, peut-être que Pujols s'est dit « Ah, ça va être difficile pour moi d'atteindre ce but-là, donc j'annoncerai pas ma retraite, puis je vais peut-être jouer une autre saison avec une équipe de bas de classement, essayer d'avoir ces 700 circuits et se retirer après. » Encore une fois, je ne suis pas dans la tête d'Albert, là. Mais écoute, on peut aller voir les commentaires de David Ortiz, on peut aller voir les commentaires de Jeter, on peut aller voir Pedro Martinez aussi s'est prononcé là-dessus. Ouais. Puis on voit que c'est pas doux, là. C'est très mort. Yeah. Doux. Je trouve ça dommage pour les Angels parce que, tu sais, si ce n'est pas pour Pujols, on n'en parlerait pas. T'sais. Ils ont un joueur au premier but, Jared Walsh, qui frappe 325, qui a 5 circuits. C'est, je veux dire, il est meilleur que Pujols.
Ouais.
Moment et les Angels doivent gagner cette année. T'sais. Ils doivent se mettre en avant. Donc, c'est une
situation... Le frappeur de choix, c'est Shohei Ohtani. Je veux dire, il n'y a pas non plus de place là, pour Albert Pujols. Ça commence à être restreint. Là.
Et pour savoir ce qui s'est passé, là, je vous conseille ce matin à Bob Nightingale USA Today qui a sorti un long texte là, où il raconte. Comment que ça n'a pas été très, très chic de la façon que ça s'est fait ou de la façon que ça aurait pu se faire. Puis moi, là-dessus, il y a deux trucs que j'aimerais ajouter. C'est que pour Mike Trout, là, Albert Pujols a été très, 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 très bon pour lui.
Ben oui.
Fait que c'est sûr qu'un gars comme Mike Trout ne doit pas être satisfait de la façon que ça s'est terminé. Là. Fait que tu sais, c'est pas juste l'impact que ça fait que Pujols, qui avait quand même quelques circuits depuis le début de la saison, qu'est-ce que ça s'est fait, mais tu sais, ça crée une espèce de situation pas le fun non plus, fait que je pense à Mike Trout, là, pour qui c'était un peu un mentor, puis dernièrement, la chose que je dirais à la blague, c'est que, tu sais, Pujols, c'est quoi, 5 ou 6e, je pense, pour le plus grand nombre de coups de circuit dans l'histoire du baseball majeur.
5e à 667, exact.
Donc, c'est Hall of Fame assuré dès son première année de ballotage. Puis, je fais une prédiction, là, je mets 10$ avec n'importe qui, là, qu'il va choisir la casquette des Cards.
Ben, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que j'aimerais ça que les Cards le signent, juste, mettons, pour terminer sa carrière. Là. Je sais qu'ils n'ont pas de place là, avec Goldschmidt, puis il n'y a pas de frappeur de choix dans la Nationale, mais juste pour boucler la boucle là, de ce grand personnage, je pense que ça serait bien. J'aimerais pas ça qu'il finisse sa carrière avec les Pirates de Pittsburgh ou les Royals de Kansas City là, pour frapper ses 33 circuits manquants. Là. Tu sais, je trouve que ça viendrait un peu... mal terminé sa carrière, tu sais.
Je ne suis pas d'accord avec toi, Sylvain.
Non?
Non, parce que le baseball, c'est tellement rendu à « il faut que tu gagnes » et non « faire plaisir aux joueurs ». Je comprends ton point, mais je ne suis absolument pas d'accord parce que n'importe où que Pujols va aller, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il aide l'équipe. Puis je vais vous dire une anecdote vite. J'ai eu la chance de côtoyer Albert Pujols là, à quelques reprises. Puis, à chaque fois qu'on jouait contre les Angels, tous les joueurs des Blue Jays, sans exception, quand Pujols, parce que lorsque nous, on fait notre pratique au bâton, l'autre équipe, des fois, ils s'en vont, comme surtout à Toronto, ils passent par le terrain pour aller frapper là, dans la cage des frappeurs avant qu'eux autres ils frappent. Là. Tout le monde s'arrêtait pour aller parler à Pujols. Tous les joueurs ont un respect inouï contre Albert Pujols. Je me rappelle, on était à LA, puis c'est Marcus Stroman qui lançait. Vous connaissez un petit peu Stroman, vous connaissez un petit peu le bonhomme, un petit peu cocky, il est sûr de lui, il sait ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, en tout cas, vous le connaissez un peu. Puis, écoute, il avait lancé une rapide tombante là, à Pujols, il s'est fait jammer un peu, un roulant en trois, puis tu sais, Stroman l'a pas fait, puis ça, tu sais, c'est rare que je vais faire ça, que je vais protéger Stroman, mais bon, là, je vais le faire, il est parti, il a sauté par-dessus la ligne, puis il est retourné. Pujols ne l'a vraiment pas pris. Avec raison, un petit peu, c'était comme, c'est un roulant comme un autre, puis ça finissait la manche, et Pujols a demandé le numéro de téléphone de Stroman. Après la game, tout de suite, puis là, bang, on l'a su, notre clubby, Pujols l'a texté, puis il a dit, je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe, là, c'est quoi ton problème et tout. Stroman, là, déjà que c'est quelqu'un que lui, là, c'est comme, hey, moi, je suis le meilleur, puis il n'y a personne qui peut me parler, il a comme, wow, écoute, excuse-moi, il est parti de la chambre, ils sont allés se rencontrer, écoute, désolé, je voulais pas faire ça, t'es une légende, t'es quelqu'un d'incroyable, ils se sont excusés le lendemain comme si rien n'était. Puis le lendemain, Pujols m'a donné un de ses jerseys signé à mon nom. Donc, ça aussi, je trouve que ça a été incroyable. Alors, comme je vous dis, là, c'est quelqu'un de très respecté. C'est pour ça que je trouvais ça comme... Ça se pouvait pas dans ma tête qu'il se fasse libérer comme ça. Donc, j'espère sincèrement, par contre, qu'il est dans une équipe. Il faut que ce soit une équipe de l'américaine, premièrement, selon moi, parce que je vois pas comment une équipe de la nationale...
Okay. Non. Mais ce que je voulais dire tantôt, Ouzoué, là, c'est que j'aimerais ça que les Cards le signent pour boucler la boucle. Mais je sais que c'est impossible parce qu'il ne peut pas aider les Cards.
Goldschmidt, s'il te plaît. Puis.
Ben oui, mais je veux dire.
J'ai l'impression qu'il veut vraiment avoir ses 33 circuits. Donc, j'ai l'impression qu'il va rejouer une autre année. Selon lui, il n'arrêtera pas. Je crois qu'il veut ses 33, mais s'il ne les veut pas...
En tout cas, il n'y a rien annoncé pour l'instant, donc clairement qu'il laisse les portes ouvertes.
Si peut-être, je suis d'accord avec toi, qu'il signe la dernière journée de la saison.
Oui, juste pour boucler la boucle à la limite.
Les Cards font les playoffs, va jouer au first. Tu sais qu'il y a une belle standing ovation, tu sais, que tout le monde se lève pour lui.
La sortie méritée, là, parce qu'en ce moment, ça ne se termine pas bien, c'est pas le fun.
Il mérite. C'est quelqu'un qui a vécu dans l'era des stéroïdes aussi. Oui,
c'est vrai. C'est
quelqu'un qui n'a jamais été nommé là-dedans. Tu sais, c'est un bon gentleman. Puis encore une fois, là, beaucoup de jeunes, là, on l'adore, ce gars-là.
On a vu, entre autres, Vladimir Guerrero-Fils, à quel point que on les a vus sur le terrain ensemble. Tu sais, deux Dominicains en plus. Donc, on a vu le respect que Vladimir Guerrero-Fils a pour... Albert, puis l'autre rumeur qu'il y avait eue, puis ça aussi, ça n'arrivera pas, puis ça va pouvoir te permettre d'emboîter dans le prochain sujet, Sylvain, c'était qu'ils rejoignent Tony La Russa avec les White Sox. Tu sais, qui ont déjà osé Abreu au premier but, puis Mercedes comme DH, fait que ça n'arrivera pas. Mais non. Toi, ce que tu me disais, Sylvain, c'est que La Russa, tu le trouves particulièrement mauvais.
Ben, il n'y a pas juste moi qui le trouve mauvais. Honnêtement, là, si vous avez lu un peu Twitter dernièrement, même dans le vestiaire des White Sox, on commence à se poser des questions puis à manquer de patience par rapport à ces décisions-là. Puis, je vous en nomme deux rapidement. Là. La semaine dernière, là, il n'a pas enlevé Lucas Giolito parce qu'il n'a pas remarqué qu'il était fatigué, qu'il était brûlé. Il l'a enlevé trop tard. Puis là, après le match, j'ai pas remarqué qu'il était fatigué. Mais voyons, t'es le gérant, tu devrais être celui qui se rend compte de ça. Et l'autre chose, c'est qu'en prolongation, maintenant, on doit placer un joueur au deuxième but et c'est le dernier retrait de la manche précédente. Et là, il a envoyé Liam Hendrix, qui est son releveur numéro 1 au deuxième but pour courir. Alors que le règlement stipule que tu peux amener, si c'est le lanceur, le dernier retrait, tu peux aller au retrait précédent qui était à ce moment-là aux Abreu. Et après le match, il a dit « Je n'étais pas au courant de ce règlement-là. » C'est le journaliste qui lui a appris le règlement. Hendrix aurait pu se blesser en contournant avec une collision au marbre sur un ballon sacrifice, quoi que ce soit. C'était dangereux. Bref, puis tu sais, on a emmené aussi là, Andrew Vaughn au début de la saison pour le développer et tout ça. Puis on l'utilise ici et là. Je ne sais pas, je pense pas que c'est le gérant idéal pour développer les jeunes en 2021. Alors, moi, je l'appelle grand-papa Tony, là, mais je pense qu'il est un petit peu moins de son temps. Mais bon. En contrepartie, les White Sox sont premiers dans la centrale, sont premiers dans plusieurs catégories offensives, premiers dans plusieurs catégories au niveau des lanceurs. Bref.
Puis ils ont des blessés, là, Jiménez et tout ça.
Exact. Puis Lewis Robert aussi vient de se blesser. Donc, je dis, bon, force est d'admettre que ça fonctionne, mais en même temps, je ne suis pas tout seul non plus à se poser des questions sur lui.
Moi, le mini-point que j'ajouterais, là, puis tu sais, j'excuse pas Tony La Russa du tout, là, parce que t'es gérant, il faut que tu sois au courant de tous les règlements en tout temps. Mais le petit truc avec Liam Hendrix, c'est que c'était quand même un match interligue qui était à Cincinnati. Donc, tu sais, c'est un règlement qu'il n'y a pas à connaître, du moins.
Plus dans la Ligue nationale, tu as raison.
Fait que c'est la petite affaire où je l'excuse un peu.
Mais en même temps, Ben, tu es dans Major League.
Ouais, c'est ça.
Ben, je ne l'excuse pas. Non.
Mais
t'es dans une ligue.
En fait, tu as raison, Osoué. Je ne l'excuse pas, mais j'apporte quand même cette précision-là sans l'excuser.
Okay? Ben, sais-tu quoi? Même si tu l'amènes, il a une équipe d'entraîneurs avec lui. Donc, s'il ne savait pas le règlement, c'est correct. Écoute, j'ai été sur le banc, là. Quand Gibbons, là, il y avait quelque chose qu'il ne savait pas parce que Gibbons n'était pas nécessairement non plus le gérant le plus allumé de la planète. Crois-moi que il était bien entouré dans le sens le gars de chiffres qui était là, le gars de statistique, le coach au 3, le coach au first, le bench coach. Tu dois
savoir. Ben, le bad coach devrait le savoir encore plus.
Tu dois le savoir, tu n'as rien d'autre à faire. Tu dois le savoir ce qui se passe. Tu dois savoir quel joueur qui est prêt, quel joueur n'est pas prêt, quel joueur qui peut lancer, quel releveur n'est pas disponible. Puis en plus, tu le sais, cette année, les équipes jouent beaucoup contre des équipes de la nationale. Il y a tout le temps, il y a au moins une équipe qui joue interligue. T'sais, on est 15-15. Donc, c'est sûr que ça joue à toutes les à tous les jours, là, une game interligue. Alors, La Russa, je suis désolé, mais come on, tu peux pas faire ça.
Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Come on!
Bref, là, ça dort au gaz dans l'abri des White Sox. Puis, une chance, les joueurs jouent au baseball, puis ça paye.
Sylvain, ils étaient supposés d'être la meilleure équipe dans
la ligue. Oui. Peu importe les gens, je pense.
Peu importe les gens, je suis sérieux, je suis d'accord avec toi, mais je vais aller plus loin, je suis encore plus d'accord avec toi que j'ai l'impression que s'il y avait un gérant un petit peu plus, je dirais pas jeune, parce que c'est pas nécessairement une question de jeunesse, mais peut-être plus allumé, je pense que les White Sox seraient une équipe qui serait intéressant à voir pendant les séries.
Ben oui, puis il n'y aurait pas juste un demi-match d'avance sur les Indians de Cleveland. T'sais, oui, eux sont bien coachés avec Terry Francona, mais je veux dire, les White Sox, avec la qualité de joueurs qu'ils ont, devraient avoir déjà un 4-5 matchs d'avance.
Cleveland, là, ils se sont fait no-hit deux fois, là, je te le dis, ça ne frappe pas beaucoup. Là, ils ne devraient pas. Comme tu dis, ils ont, je pense que Francona avec les White Sox ne seraient même pas proches des Indians.
Non, c'est ça. Messieurs, juste pour terminer l'actualité, là, deux matchs sans points de coup sûr cette semaine. Ça fait quatre depuis le début de la saison. Et là, moi, ce que j'ai retenu cette semaine, c'est qu'il n'y a pas personne qui a essayé de glisser au premier but la tête première. Il n'y a personne qui a essayé de se faire atteindre pour gâcher le match en point de coup sûr de ces lanceurs-là. Ça s'est fait dans les règles de l'art. On a essayé de frapper la balle. On n'a pas réussi à frapper la balle. Bref, je suis super content. Et pour John Means des Orioles de Baltimore, qui est à peu près la seule bonne nouvelle avec les Orioles depuis le début de la saison. Puis Wade Miley, le 34 ans, qui a même dit à la fin du match, j'avais plus de jus, j'avais rien dans le bras. Je lançais avec je sais pas quoi, mais pour que la balle se rende, puis la défensive a fait le travail. Il y a eu deux anecdotes super intéressantes dans ce match-up. Ben, la première, en fait, c'est qu'il y a eu un délai de pluie. En plus, c'est rare que le lanceur partant revienne après 1h23 d'arrêt, mais il est revenu. Et là, Tucker Barnhart, qui est son catcher, a dit, moi, j'avais même pas la carte, là, de la scouting card là, sur les joueurs, comment on les affronte, tout ça. J'ai oublié ça dans le vestiaire, donc on est allé un peu comme ça, ça a fonctionné. Puis le voltigeur Tyler Naquin lui a dit, ben moi, ma carte, je l'ai regardée à l'envers tout le match. Donc, j'ai été placé à l'envers pour tous les frappeurs pendant tout le match. Ça a quand même fonctionné. Donc, c'était marqué dans le ciel que cette journée-là, Wade Miley allait réussir son match à point de coup.
Le secret à Wade Miley, là, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est que sur son bras droit, lui, il est gaucher, mais sur son bras droit, il y avait un tatouage de Hulk. Son petit gars, il avait mis un tatouage de super-héros.
Cette journée-là.
La veille, puis il a lâché avec son tatouage de Hulk.
Ah, mais là.
Fait que c'est là que ça s'est passé.
Est-ce que moi, j'ai une question par rapport au match en point d'écouture, les gars, c'est de memes. Parce que, bon, premièrement, il est dans mon pool.
27 frappeurs.
Il m'a donné beaucoup de points.
Ça, c'est clair.
Que pensez-vous, là, que parce que lui a lancé un match parfait, ben pas parfait, sans point d'écouture, parce que son receveur n'a pas réussi là, à capter la balle puis avoir
la troisième prise.
Alors, moi, je vous demande, les gars, là, pensez-vous que la Ligue devrait changer et dire que c'est un match parfait parce que, bon, c'est pas de sa faute ou c'est juste un match sans point d'écouture?
Moi, je pense pas qu'il devrait changer. Là. Ça fait partie des règlements. Tu sais, heureusement que ce n'est pas arrivé en 9e manche. T'sais. C'est quelque chose qui est arrivé en 3e manche. Mais c'est incroyable, là. Match sans point de coup sûr en affrontant 27 frappeurs.
En fait, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive qu'un match sans point de coup sûr avec une troisième prise ratée que le joueur se permet d'aller au premier but. C'est la première fois depuis, c'est quoi, 100 ans et plus, le baseball majeur, là, que ça arrive. Donc, c'est assez incroyable. Puis non, moi, je pense pas non plus qu'il faudrait changer le règlement parce que le joueur, en fait, s'est fait retirer sur une tentative de vol après. C'est pour ça qu'on a affronté 27 frappeurs parce qu'il s'il était resté au premier but, on en aurait affronté 28 puis par défaut, c'est plus un match parfait à ce moment-là.
J'ai eu justement, là, j'ai parlé de ça avec beaucoup de mes amis de baseball, puis c'était comme 50-50. Moi, mon point est qu'un match parfait, ça le dit le nom. Parfait. Ouais. Alors, exact. C'est pas juste le lanceur, c'est ta défensive.
Absolument.
C'est ton entraîneur, c'est tout le monde. Tout le monde doit être parfait. Alors, je trouve que c'est un sport d'équipe. Donc, on le sait, là, souvent dans les matchs sans point de coup sûr, il y a des diving catch, il y a un jeu spectaculaire. C'est jamais 27 rétro bâtons.
Non, non. Il y a
besoin de sa défensive.
Sur la séquence, là, est-ce que tu dois pas filer pendant une couple de jours? Là?
Sur la séquence, c'est un mauvais lancer qui a été crédité, OK? Mais j'ai regardé la séquence plusieurs fois. Je suis d'accord avec le marqueur d'avoir mis un mauvais lancer parce que c'est un type de pitch qui a touché le sol. Mais le catcher devait bloquer ça. Là. Pour de vrai, là.
Ben,
c'est comme lever debout un peu.
Ben, ce lancer-là arrive en 9e manche, il bloque.
Ah non, c'est sûr.
Sylvain, tu l'as dit, ça l'arrive vraiment au 8e manche avec deux retraits. Je te le jure que le catcher, là, il aurait bloqué avec ses dents.
Ben oui, c'est ça.
C'était le meilleur bloc de l'histoire parce que, justement, on sait qu'on a un match sans point d'écouture. Tu sais, sans dire qu'il a été paresseux ou rien, là, en fait, je ne sais pas si tu as déjà catché, Ben, là, mais c'est pas facile. Alors,
non, c'est sûr que cette balle-là devait être bloquée, là, tu sais. Que ce soit en 3e ou en 9e manche, là, tu vois sa séquence, là, il l'a mal joué, là, tu sais. Je suis d'accord que c'était un mauvais lancer, mais tu sais, Ozu était bloqué facile. Pis...
À 100%, mais...
Probablement que j'ai bloqué, là.
J'ai hâte de voir ça. Prochaine à Québec, on va mettre la machine, une curveball à 84.5, et je vais te passer mon équipement.
Je suis prêt. Non, j'en ai un équipement, je suis catcher, moi, dans la vie.
Ah ouais.
Je ne sais pas pourquoi encore, ça vient d'arriver.
C'est flou.
Ben, c'est flou, là. Non, mais écoute, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas mal la fin. Fait qu'on on se reparle prochainement, la semaine prochaine. Puis, merci d'être là.
On a dépassé l'heure. C'est
déjà le plus long, là, le plus long, les buts remplis de l'histoire pour l'instant.
On aime tout ça, jaser de baseball.
Non, on adore ça, les gars.
Hey, merci. Hey, merci
de jouer. Belle semaine.
Merci, guys.
Bye bye.
Bye-bye.
Ben, on n'a pas le choix de terminer. On l'a teasé au début de l'émission.
Ben ouais.
Que sont-ils devenus? Et là, on parle d'un ancien expo. Et cette semaine, j'ai fait des grandes recherches, mais des recherches sur Kirk Rooter. Est-ce que tu... à part les oreilles, là, Ben, est-ce que tu te rappelles de Kirk Rooter?
Mais lui, là, c'est Woody. Tu sais,
Woody, exactement.
Story, là, ouais. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Puis Kirk Rooter, ouais. Honnêtement... Je me rappelle que, vaguement, là, que quand il était arrivé dans le baseball majeur, il y avait comme eu une séquence, là, soit de 7 ou 8 victoires en ligne. Puis c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je l'aime encore, mais tu sais, là, je suis un peu biaisé dans l'histoire parce que Derek Aucoin, là, quand il est joué dans le baseball majeur, ça a pris du temps avant qu'il soit rappelé. Puis, tu sais, il dominait à Ottawa. Puis, tu sais, les expos, il avait dit, quand on va te rappeler, on ne te remettra plus jamais en bas. Puis, finalement, le match qu'il a joué au Stade Olympique, il avait été le joueur du match Vlad Kendecker. Tout avait bien été. Tu sais, puis, il avait été reporté son gant dans le vestiaire. Puis, il était revenu pour donner des autographes. Puis, là, ils l'ont intercepté pour dire, Derek, on te retourne en bas, tu sais. Puis c'était pourquoi qu'il l'a retourné en bas? C'est parce que Kirk Rooter sortait de la liste des blessés. Fait qu'aujourd'hui, Kirk Rooter, je l'aime encore. Mais si ça n'avait pas été de lui, mon chum Derek,
serait
resté dans le baseball majeur plus longtemps. Fait que c'est le souvenir que j'ai de lui. Puis je ne sais pas si c'est relié, mais de façon vague, là. Mais Derek m'avait dit que Kirk Rooter, là, il était un peu. Comment je dirais ça? Immature, là. Tu sais, c'était pas un gars de la gang tant que ça. Il y avait encore. Ce qu'il me disait en blague, c'est qu'il avait encore son sleeping bag des Spider-Man quand il est arrivé avec des mineurs. Là, tu sais.
Mais moi, ce que je me rappelle de Kirk Rooter, c'est qu'il travaillait tellement vite. Ses départs, là, il n'y avait pas de match de 3 heures là, quand lui était au Monticule. Là. C'était des matchs de 2h30 à peu près. Écoute, il recevait la balle du receveur, il était déjà prêt à lancer, ça y allait. Un après l'autre. Moi, c'est. Puis il y a eu du succès quand même avec les Expos. Là. Il a joué quand même 3 saisons et demie avec les Expos. Je ne sais pas si tu te souviens, avait été changé aux Giants avec Tim Scott en retour d'un autre gaucher, Mark Leiter. Oh. Il n'a pas eu non plus une grande carrière avec les
mais
Expos
là,
par la suite.
Ça s'appelle Question.
Oui, mais là.
Il fait quoi à Star Kirk?
Ben, en fait, après sa carrière, là, il a été entraîneur adjoint avec l'Université McKendree. Je ne sais pas trop c'est où, aux États-Unis. Okay. Et là, maintenant, il est coach avec l'Académie Gary Gaetti dans l'État de l'Illinois. Gary
Gaetti.
Ben oui, des Royals. Il a joué dans beaucoup d'équipes, des Cards, Gary Gaetti. Bref, maintenant coach des lanceurs dans cette académie-là, dans l'Illinois. Lui, il est toujours habité dans le coin de Saint-Louis. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, il aurait voulu jouer pour les Cards une dernière saison. Il a voulu aller participer au camp d'entraînement. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Et la carrière s'est terminée avec les Giants. D'ailleurs, Madison Bumgarner l'a dépassé. Mais au moment de sa retraite, c'était le lanceur avec le plus de victoires dans l'histoire des Giants. Donc, quand même, Kirk Rooter a eu sa marque avec les Expos. D'ailleurs, en 94, je pense, avait gagné 15 de ses 18 départs là, dans la fameuse saison des Expos. Donc, ça avait quand même été un lanceur qui m'avait marqué à l'époque. Et on va essayer de faire ça un peu à chaque semaine, de ramener des anciens joueurs des Expos qu'on se souvient pour nous rappeler de souvenirs puis de qu'est-ce qu'ils font maintenant aussi dans la vie de tous les jours.
Excellent, doux souvenir. Puis juste pour que tu passes une belle semaine, là, Sylvain, je te dirais que parce que Kirk Rooter, c'est un gaucher. Toi, tu es un gaucher. J'ai oublié de signaler tantôt, mais tu sais, dans les quatre qui ont fait des matchs en point de coup sûr, là, John Means, Carlos Rodon, Wade Miley, puis Musgrove.
Joe Musgrove.
Il y a un seul droitier.
Exact.
Musgrove. Puis à ça, on peut ajouter Bumgarner, qui est gaucher, qui a fait
ouais.
sept manches. Là,
sept manches,
été
ouais.
crédité. Mais les gauchers on la
coupe. Ben
puis
ouais.
Je me suis dit que ça te ferait plaisir que je te dise ça.
Mais, dès qu'on parle d'un gaucher au baseball, ça me fait plaisir.
Ils sont bizarres, là, mais... Hey, merci Sly, c'était une belle semaine. Puis,
merci à toi, je te laisse le mot de la fin, puis on se revoit la semaine prochaine.
Ouais, excellent. Donc, bonne semaine à tout le monde. Puis, je finis toujours le podcast en rappelant que le suicide ne devrait jamais être une option. Hommage à mon ami Derek Aucoin qui terminait ses émissions de radio de cette façon. Donc, besoin d'aide, besoin de parler, 1-866, appel. Alors, merci
mon Ben. Puis, n'oubliez pas de partager si vous aimez et allez acheter ça. Chips, Peanuts, Cracker Jack. Salut mon Ben.
Oh yeah! La maison, entrer en chambre ou en avion, en way.